Victor Hugo, La légende des siècles, troisième série, La rose de l'infante. Elle est toute petite, une duègne la garde. Elle tient à la main une rose et regarde. Quoi, que regarde-t-elle? Elle ne sait pas. L'eau, un bassin qui assombrit le pain et le bouleau. Ce qu'elle a devant elle, un cygne aux ailes blanches, le bercement des flots sous la chanson des branches, et le profond jardin rayonnant et fleuri. Tout ce bel ange a l'air dans la neige pétrie. On voit un grand palais comme au fond d'une gloire, un parc de clairs viviers où les biches vont boire, et des pans étoilés sous les bois chevelus. L'innocence est sur elle une blancheur de plus. Toutes ses grâces font comme un faisceau qui tremble. Autour de cet enfant, l'herbe est splendide et semble pleine de vrais rubis et de diamants fins. Un jet de saphir sort des bouches des dauphins. Elle se tient au bord de l'eau, sa fleur l'occupe. Sa basquine est en point de gêne. Sur sa jupe, une arabesque errant dans les plis du satin suit des mille détours d'un fil d'or florentin. La rose épanouie et toute grande ouverte, sortant du frais bouton comme d'une urne verte, charge la petitesse exquise de sa main. Quand l'enfant, allongeant ses lèvres de carmin, fronce en la respirant sa riante narine, la magnifique fleur, royale et purpurine, cache plus qu'à demi ce visage charmant, si bien que l'œil hésite et qu'on ne sait comment en distinguer de la fleur ce bel enfant qui joue, et si l'on voit la rose ou si l'on voit la joue. Ses yeux bleus sont plus beaux sous son pur sourcil brun. En elle tout est joie, enchantement, parfum. Quel doux regard, l'azur, et quel doux nom, Marie. Tout est rayon, son œil est clair et son nom pris. Pourtant, devant la vie et sous le firmament, pauvre être, elle se sent très grande, vaguement. Elle assiste au printemps, à la lumière, à l'ombre, au grand soleil couchant, horizontal et sombre, à la magnificence éclatante du soir, aux ruisseaux murmurants qu'on entend sans les voir, aux chants, à la nature éternelle et sereine, avec la gravité d'une petite reine. Elle n'a jamais vu l'homme que se courbant. Un jour, elle sera duchesse de Brabant. Elle gouvernera la Flandre ou la Sardaigne. Elle est l'infante. Elle a 5 ans. Elle dédaigne. Car les enfants des rois sont ainsi. Leur front blanc porte un cercle d'ombre et leurs pas chancelants sont des commencements de règne. Elle respire sa fleur en attendant qu'on lui cueille un empire. Et son regard, déjà royal, dit « C'est à moi !» Il sort d'elle un amour mêlé d'un vague effroi. Si quelqu'un, la voyant si tremblante et si frêle, fût-ce pour la sauver, mettait la main sur elle, avant qu'il eût pu faire un pas ou dire un mot, il aurait sur le front l'ombre de l'échafaud. La douce enfant sourit, ne faisant autre chose que de vivre et d'avoir dans la main une rose, et d'être là, devant le ciel, parmi les fleurs. Le jour s'éteint, les nids chuchotent, cœur et l'heure, les pourpres du couchant sont dans les branches d'arbres. La rougeur monte au front des déesses de marbre qui semblent palpiter, sentant venir la nuit. Et tout ce qui plantait, planait, redescend. Plus de bruit, plus de flamme, le soir mystérieux recueille le soleil sous la vague et l'oiseau sous la feuille. Pendant que l'enfant rit, cette fleur à la main, dans le vaste palais catholique romain, dont chaque ogive semble un soleil, une mitre, quelqu'un de formidable est derrière la vitre. On voit d'en bas une ombre au fond d'une vapeur, de fenêtre en fenêtre errée, et l'on a peur. Cette ombre, au même endroit, comme en un cimetière, parfois est immobile une journée entière. C'est un être effrayant qui semble ne rien voir. Il rôde d'une chambre à l'autre, pâle et noir. Il colle aux vitraux blancs son front lugubre et songe. Spectre blême, son ombre au feu du soir s'allonge. Son pas funèbre est lent comme un glas de bœuf froid. Et c'est la mort, à moins que ce ne soit le roi. C'est lui, l'homme en qui vit et tremble le royaume. Si quelqu'un pouvait voir dans l'œil de ce fantôme, debout en ce moment l'épaule contre un mur, ce qu'on apercevrait dans cet abîme obscur, ce n'est pas l'humble enfant, le jardin, l'eau moirée, reflétant le ciel d'or d'une claire soirée, les bosquets, les oiseaux se becquetant entre eux. Non! Au fond de cet œil, comme l'onde vitreux, sous ce fatal sourcil qui dérobe à la sonde cette prunelle autant que l'océan profonde, ce qu'on distinguerait, ces mirages mouvants, tout un vol de vaisseaux en fuite dans le vent, et dans l'écume, au pli des vagues, sous l'étoile, l'immense tremblement d'une flotte à la voile, et là-bas, sous la brume, une île à un blanc rocher, écoutant sur les flots ses tonnerres marcher. Telle est la vision qui, dans l'heure où nous sommes, emplit le froid cerveau de ce maître des hommes, et qui fait qu'il ne peut rien voir autour de lui. L'armada, formidable et flottant point d'appui du levier dont il va soulever tout un monde, traverse en ce moment l'obscurité de l'onde. Le roi, dans son esprit, la suit des yeux vainqueurs, et son tragique ennui n'a plus d'autre lueur. Philippe II était une chose terrible. Iblis dans le Coran et Caïn dans la Bible sont à peine aussi noirs qu'en son Escurial, ce royal spectre, fils du spectre impérial. Philippe II était le mal tenant le glaive. Il occupait le haut du monde comme un rêve. Il vivait. Nul n'osait le regarder. L'effroi faisait une lumière étrange autour du roi. On tremblait rien qu'à voir passer ces majordomes, tant ils se confondaient aux yeux troubles des hommes avec l'abîme, avec les astres du ciel bleu. Tant semblait grande à tous son approche de Dieu. Sa volonté fatale, enfoncée, obstinée, était comme un crampon mis sur la destinée. Il tenait l'Amérique et l'Inde, il s'appuyait sur l'Afrique, il régnait sur l'Europe, inquiet, seulement du côté de la sombre Angleterre. Sa bouche était silence et son âme mystère. Son trône était de pièges et de fraudes construits. Il avait pour soutien la force de la nuit. L'ombre était le cheval de sa statue équestre. Toujours vêtu de noir, ce tout-puissant terrestre avait l'air d'être en deuil de ce qu'il existait. Il ressemblait au sphinx qui digère et se tait, immuable. Étant tout, il n'avait rien à dire. Nul n'avait vu ce roi sourire, le sourire n'étant pas plus possible à ses lèvres de fer que l'aurore à la grille obscure de l'enfer. S'il secouait parfois sa torpeur de couleuvre, c'était pour assister le bourreau dans son œuvre, et sa prunelle avait pour clarté le reflet des bûchers sur lesquels par moments il soufflait. Il était redoutable à la pensée, à l'homme, à la vie, au progrès, au droit, dévot à Rome. C'était Satan régnant au nom de Jésus-Christ. Les choses qui sortaient de son nocturne esprit semblait un glissement sinistre de vipères. L'Escurial, Burgos, Aranjuez, ses repères, jamais n'illuminaient leur livide plafond. Pas de festin, jamais de cour, pas de bouffon. Les trahisons pour jeu, l'autodafé pour fête. Les rois troublés avaient au-dessus de leur tête ses projets dans la nuit, obscurément ouverts. Sa rêverie était un poids sur l'univers. Il pouvait et voulait tout vaincre et tout dissoudre. Sa prière faisait le bruit sourd d'une foudre. De grands éclats sortaient de ses songes profonds, Ceux auxquels ils pensaient disaient « Mais nous étouffons !» Et les peuples d'un bout à l'autre de l'Empire tremblaient, sentant sur eux ses deux yeux fixes luire. Charles fut le vautour, Philippe est le hibou. Morne en son noir pourpoint, la toison d'or au cou, on dirait du destin la foi de sentinelle. Son immobilité commande. Sa prunelle luit comme un soupirail de caverne. Son doigt semble ébauchant un geste obscur que nul ne voit, donner un ordre à l'ombre et vaguement l'écrire. Chose inouïe, il vient de grincer un sourire. Un sourire insondable, impénétrable, amer. C'est que la vision de son armée en mer grandit de plus en plus dans sa sombre pensée. C'est qu'il la voit voguer par son dessein poussé, comme s'il était là, planant sous le zénith. Tout est bien, l'océan docile s'aplanit. L'armada lui fait peur comme un déluge large. La flotte se déploie en bon ordre de marche, et les vaisseaux, gardant les espaces fixés, échiquiers de tillacs, de ponts, de mâts dressés, ondule sur les eaux comme une immense claie. Ces vaisseaux sont sacrés, les flots leur font la haie. Les courants, pour aider ces nefs à débarquer, ont leur besogne à faire, et n'y sauraient manquer. Autour d'elles, la vague avec amour déferle. L'écueil se change en port, l'écume tombe en perles. Voici chaque galère avec son gastadour. Voici ceux de l'Escaut, voilà ceux de la Dour. Les sormestres de Caen et les deux connétables. L'Allemagne a donné ses ourques redoutables. Naples ses brigantins, Cadiz ses galions, Lisbonne ses marins, car il faut des lions, et Philippe se penche, et qu'importe l'espace, non seulement il voit, mais il entend. On passe, on court, on va. Voici le cri des porte-voix, le pas des matelots courant sur les pavois, les mossos, l'amiral appuyé sur son page, les tambours, les sifflets des maîtres d'équipage, les signaux pour la mer, l'appel pour les combats, le flacras sépulcral et noir du branle-bas. Sont-ce des cormorans? Sont-ce des citadelles? Les voix le font un vaste et sourd battement d'ailes. L'eau gronde et tout ce groupe énorme vogue et fuit, et s'enfle et roule avec un prodigieux bruit. Et le lugubre roi sourit de voir grouper sur 400 vaisseaux 80 000 épées. Ô rictus du vampire assouvissant sa faim! Cette pâle Angleterre, il la tient donc enfin! Qui pourrait la sauver? Le feu va prendre aux poudres. Philippe dans sa droite à la gerbe des foudres. Qui pourrait délier ce faisceau dans son poing? N'est-il pas le seigneur qu'on ne contredit point? N'est-il pas l'héritier de César, le Philippe dont l'ombre immense va du Gange au Posilippe? Tout n'est-il pas fini quand il a dit « Je veux » N'est-ce pas lui qui tient la victoire aux cheveux? N'est-ce pas lui qui lance en avant cette flotte, ces vaisseaux effrayants dont il est le pilote, et que la mer charrie ainsi qu'elle le doit? Ne fait-il pas mouvoir avec son petit doigt tous ces dragons ailés et noirs, est-ce sans nombre? N'est-il pas lui le roi? N'est-il pas l'homme sombre à qui ce tourbillon de monstres obéit? Quand Béit Sifrezil, fils d'Abdallah-Bézid, eut creusé le grand puits de la mosquée au Caire, il y grava « Le ciel est à Dieu, j'ai la terre. » Et comme tout se tient, se mêle et se confond, tous les tyrans n'étant qu'un seul despote au fond, ce que dit le sultan jadis, ce roi le pense. Cependant, sur le bord du bassin, en silence, l'infante tient toujours sa rose gravement, et 12 anges aux yeux bleus la baisent par moments. Soudain, un souffle d'air, une de ces haleines que le soir frémissant jette à travers les plaines, tumultueux zéphyr effleurant l'horizon, trouble l'eau, fait frémir les joncs, met un frisson dans les lointains massifs de myrte et d'asphodèle, vient jusqu'au bel enfant tranquille, et d'un coup d'aile, rapide et secouant même l'arbre voisin, effeuille brusquement la fleur dans le bassin. Et l'enfant n'a plus dans la main qu'une épine. Elle se penche et voit sur l'eau cette ruine. Elle ne comprend pas, qu'est-ce donc? Elle a peur, et la voilà qui cherche au ciel avec stupeur cette brise qui n'a pas craint de lui déplaire. Que faire? Le bassin semble plein de colère. Lui, si clair tout à l'heure, il est noir maintenant. Il a des vagues, c'est une mer bouillonnant. Toute la pauvre rose est éparse sur l'onde. Ces cent feuilles que noie et roule l'eau profonde, tournoyant, naufrageant, s'en vont de tous côtés, sur mille petits flots par la brise irritée. On croit voir dans un gouffre une flotte qui sombre. « Madame, dit la duègne avec sa face d'ombre, à la petite fille étonnée et rêvant, tout sur terre appartient au prince, hors le vent. »